Les épisodes de T'es pas un vrai fan podcast sont d'abord filmés pour YouTube,
puis ensuite transformés en audio seulement.
C'est quoi un vrai fan? Selon Julianne, là, tu peux connaître un refrain puis c'est bien correct. Moi, là, pour moi, il faut que tu connaisses bien plus qu'une seule chanson. Mais il y a une chose qui est sûre, vous allez entendre deux passionnés de musique qui vont déblatérer leurs connaissances. Est-ce qu'on connaît ton band préféré plus que toi? Oui. Bienvenue à T'es pas un vrai fan, toujours en compagnie de...
Julian!
Et JP! Épisode qui me tenait beaucoup à cœur aujourd'hui parce que ça porte sur le 20e anniversaire d'un de mes albums préférés de tous les temps. Même à l'époque, quand...
Baby One More Time de Britney Spears.
Exact.
Ah, okay.
Puis on avait hâte que ça puisse être déclassé parce que Baby One More Time, c'était du matériel de qualité. À l'époque, on avait des profils MSN. Et souvent, je voulais montrer à tout le monde c'est quoi mes albums préférés. Puis cet album-là, on va... Quand on dit un album préféré, on dit « Ah, ben, si t'aimes le pop-punk, c'est un bon album. Ah, si t'aimes le métal, c'est un bon album. » Et tout ça. Moi, je disais « Si t'aimes la musique, tu vas aimer cet album-là. » Parce que pour moi, c'était le summum de l'expérience musicale. Encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup... Ben, il n'y a pas d'album qui est venu déclasser celui-là. Surtout pas dans le catalogue d'Avenged Sevenfold.
Donc, on parle d'Avenged Sevenfold.
C'est quoi j'ai dit depuis le début?
On l'avait pas dit.
On n'a pas nommé l'album encore?
Non, on n'a pas nommé l'album encore.
Ben, l'album « City of Evil » d'Avenged Sevenfold, leur troisième album. C'était son anniversaire le 6 juin dernier.
Mais on fête le 20e anniversaire de City of Evil.
Ouais, on va souvent aimer faire des un an plus tard, mais on va aussi aimer souligner des anniversaires d'albums, comme c'est le cas de City of Evil qui a eu 20 ans. Quand City of Evil est sorti, ça l'avait pas cartonné tout de suite au début.
Non.
Parce qu'il y avait eu un changement important
au
niveau du son.
Pis ça, c'est vraiment quelque chose que, tu parles de changement.
Ouais.
Waking the Fallen était encore très metalcore, comme leur premier album aussi, Sounding at the Seven Trumpet. Et là, finalement, on arrive avec un beaucoup plus de clean vocal. En fait, il n'y a pas du tout de scream vraiment. Puis c'est ça, c'est un gros changement. Là. Côté instrumental, je pense qu'on n'est pas trop déconcerté.
Mais ben, un peu. Quand même assez, parce que... Quand ils ont décidé de se gâter, quand ils voulaient faire cet album-là, ils se disaient on était des meilleurs musiciens, donc on voulait se gâter. Au niveau de la créativité, au niveau de la guitare, c'est un album qui
est assez... Mais ça sonne quand même, excuse-moi, mais ça sonne quand même comme du Avenged, tu sais, je veux dire, c'est, oui...
C'est très différent quand même.
Ouais.
Même si on sait que c'est du Avenged, parce que même quand... Parce qu'il y avait une fausse rumeur par rapport au choix de ne plus crier...
Ouais, c'est la chirurgie vocale.
Le monde disait, ah, il est plus capable. C'est pour ça qu'ils sont rendus comme ça maintenant.
Non, vraiment, il a vraiment décidé de faire affaire avec un coach vocal, qui est un coach quand même connu, c'est monsieur...
Ron Anderson.
Yes, merci, mister. OK. Puis dans le fond, lui, il a travaillé avec Axl Rose puis Chris Cornell.
Mm-hmm.
Donc, des artistes qu'on apprécie aussi, là. Puis, tu sais, vraiment, honnêtement... C'est ça, c'est vraiment quelque chose que lui avait dit au producer de cet album-là que.
Ben,
il arrêtait de crier.
Mais dès après Sounding.
Il a dit que c'est ça, il ferait comme une espèce de moitié-moitié dans Waking the Fallen, ou qu'il crierait encore un peu, mais il y aurait plus de clean, et finalement. Donc, effectivement, les rumeurs étaient fausses. C'était vraiment. C'était un choix planifié, quand même.
Ben, ça faisait partie de toutes les critiques qu'il y avait par rapport à l'album quand il y a des fans qui ont déserté.
Ouais.
Il y en a même qui disaient. Que c'était la pire chose qu'ils avaient jamais entendue en écoutant l'album City of Evil. Ça n'avait pas pogné au début.
Quand ils ont sorti, parce que le lead single de cet album-là, c'est Burn It Down.
Ouais.
Je sais que quand ce single-là est sorti, comme Matt, il était allé... Parce que je sais qu'une de leurs grosses craintes de changer de son, c'était vraiment d'aliéner leurs fans, de faire comme « OK, les fans ne vont pas nous suivre ». Puis, en tout cas, c'est un bon move qu'ils ont fait, finalement. Des fois, tu fais le ménage dans tes fans aussi, là.
Ben, il n'y avait pas de middle. Il disait, le monde détestait ou adorait. Il comprenait la direction.
Mais je me souviens que quand c'était arrivé, il avait écouté, il avait été sur un leaderboard, tu sais, genre de forum de Thrice. Puis, il avait vu les fans, parce que dans ce temps-là, Thrice était pas mal dans le... Peut-être un peu plus populaire, même, que Avenged. Puis, il avait lu, comme les fans, dire que c'était la... pire poubelle qu'il avait jamais vue, puis qui riait vraiment d'Avenged Sevenfold, que Matt l'avait dit, puis qui, ça l'avait blessé. Il comprenait pas comment les gens pouvaient pas vraiment apprécier le son qu'eux avaient décidé de faire, puis de continuer avec ça. T'sais.
Donc, deux singles au début, deux singles qui sont sortis pendant l'été, Burn It Down, la veille de la sortie de l'album, et pendant le mois de juillet, la fameuse chanson qu'ils ont mis sur la map Bad Country. Ouais. Ben, ils étaient déjà sur la map. Avec Wigan the Fallen, ils avaient élargi quand même leur bassin de fans.
Non, mais Bad Country,
mais ça, ça a été planétaire.
Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Ouais, parce que quand ils ont sorti Wigan the Fallen, ils ont suscité beaucoup l'intérêt des labels, des gros labels, parce qu'avant, ils étaient sur un peu plus petit label. Puis, fait oui, il y avait déjà All Eyes on Them, un peu quand Wigan the Fallen est sorti, mais vraiment, avec City of Evil, que t'aies aimé ou pas, qu'il y ait des fans qui aient déserté ou pas, on peut pas se cacher que Bad Country est venu vraiment les mettre sur la map.
Ben, tu sais, on parle en termes de radio play aussi.
Radio play.
C'est là que ça avait commencé. Et moi, je trouve ça fou quand, un peu comme le fameux film d'Eminem, quand t'as une opportunité, des fois, t'as une chance de... C'est ta chance de devenir gros. Et quand ils ont fait City of Evil, comme t'as dit, il y avait beaucoup de gens qui étaient curieux de voir qu'est-ce que... Est-ce que Waking the Fallen, on s'en va vers le haut? Qu'est-ce que ce band-là peut faire de plus que ça? Donc, ils voyaient là une opportunité. Zaki disait que pendant qu'ils ont écrit cet album-là, ils faisaient des journées de 14-16 heures. C'est tout ce qu'ils faisaient. T'sais, ils avaient décidé de tout mettre leur énergie parce que c'était leur opportunité.
Je sais que ce genre d'album-là, souvent, on le voit dans le deuxième album d'un band. Exemple, Meteora pour Linkin Park.
Qui ont confirmé que...
Que c'est pas des albums qui ont du fun à faire.
Oui, ben on va parler à Blink aussi.
Exactement. Mais Blink, c'est ça, j'ai dit deuxième album, mais j'ai failli nommer Blink, mais Blink, Take Off Your Pants, c'était pas leur deuxième.
Dès que t'as connu le succès.
L'album qui suit leur premier album qui connaît le succès, c'est vraiment l'album que les artistes ont souvent le moins de fun à faire. Donc, c'est pour ça, je pense que les gars ont parlé souvent que City of Evil, ils n'ont pas eu de fun à le faire.
Ben, c'est pas qu'ils n'ont pas eu de fun, c'est qu'ils ont travaillé très fort.
Ils ont travaillé très fort, mais c'est ça. Moi, j'ai lu. Comme si peut-être pas toujours pas eu du fun, mais j'ai lu des moments où que comme... Tu sais, c'est ça, c'est... Ils vont moins reparler après cet album-là parce que c'est ça, c'est pas... Tu sais, ils ont... Je suis sûr qu'ils ont eu plus de fun à faire Libad que c'est le Vivo, mettons, tu sais.
Il était... Ben, Sinister Gate disait que le plus dur, c'est de rester sobre pendant cette période-là parce qu'il était plus sur le party. Il était jeune aussi.
Ouais, il était très jeune.
Tu sais, il avait vingtaine, il avait 24 ans.
C'est insane.
Puis il disait que grâce à cet album-là, ils ont pu tourer beaucoup plus puis qu'ils vivaient le temps de leur vie. Puis c'est sûr, à 24 ans, tu fais le tour du monde avec ta musique. C'était fou. Et en 2006, ça a suivi avec les prochains singles, Beast in the Harlot et Seize the Day.
Ouais.
Quand on parle de Radio Play, Seize the Day.
Un autre.
Ça a été une chanson qui est... Ben, c'est ça. Qu'on comparait à des power ballads des groupes de l'époque, peut-être avant eux. Tu sais, ils se sont inspirés de groupes quand même assez connus.
Ouais, mais ben, juste le vidéoclip de Seize the Day, ils se sont pas mal inspirés de November Rain de Guns N' Roses. Tu sais, il y a Sin qui joue sur le cercueil, là, tu sais. Fait que c'est pas mal.
Ouais, mais il a l'air pogné, hein. Quand il est sur le cercueil, il a pas l'air bien en déséquilibre.
Là. On aurait écouté le vidéoclip avant d'enregistrer l'épisode juste pour passer le fun, là. Puis, tu le vois, parce qu'ils ont mis en HD là, pour le 20e anniversaire, puis tu le vois que le cercueil bouge, comme l'espèce de... Sur quoi il est, ça...
Mais je me demande si c'était vraiment dessus ou ils l'ont rajouté.
Non, je pense qu'il est dessus parce que tu le vois vraiment shaker.
OK.
Donc, moi aussi, en fait, j'ai toujours pensé que c'était peut-être un montage. Puis là, je réalise que je pense qu'il est vraiment dessus. Parce que tu le vois vraiment comme, genre, trembler, là. Pas, parce qu'il continue à descendre aussi, là. Mais tu le vois vraiment que c'est comme, puis tu vois qu'il a pas l'air stable. Fait qu'effectivement, d'après moi, tu sais, il était, c'est pas un montage.
puis ça avait été difficile au début parce que eux autres, ils pensaient qu'avec le travail qu'ils avaient mis, c'était l'album qui allait les faire le plus connaître et qui allait faire tout éclater. Mais ça l'a pris du temps avant que ça lève. Et encore une fois, d'ailleurs, dans notre dernier épisode, quand on faisait le montage de Bring Me The Horizon Next Gen, on avait vu que Bring Me The Horizon était allé enregistrer dans le studio des jumeaux Madden de Good Charlotte.
Ouais.
Et on a parlé pendant Sum 41 que c'était les jumeaux Madden qui avaient vu le clip de Fat Lip parce que Sum 41 n'était pas certain si c'était un bon clip. Puis les jumeaux avaient dit « Oh ouais, ça va pogner. »
Ouais.
Et c'est les jumeaux Madden, Avenge et Good Charlotte sont très bons amis dans la vraie vie. Des fois, j'ai l'impression qu'Avenge sont plus vieux, mais c'est Good Charlotte qui sont plus vieux qu'eux autres.
Ouais.
Je sais pas parce qu'ils sont plus big, parce que je considère Avenge quand même comme un band plus big que Good Charlotte, malgré que c'est deux bands connus. Et là, c'est au début, ils vendaient 3000 albums par semaine. Ils s'attendaient à beaucoup plus que ça. C'est quand les frères Madden ils ont commencé à faire jouer Bad Country sur MTV que là, tout a commencé à péter. Ils ont passé 3000 albums à 30 000 albums par semaine.
Vraiment, c'est ça, c'est vraiment un album qui a éclaté comme plus tard. Là. Tu sais, c'est s'il avait été un film au box-office, ça l'aurait bombé. Mm. Puis après ça, c'est, mettons, en sortie DVD quasiment que ça l'aurait...
Ouais.
On dirait que c'est ça. C'est comme le genre de chose que bouche à oreille qui a vraiment fait... Mais oui, devait être, ça devait être vraiment fucked up comme sentiment que tu sors ce que toi, tu penses être le meilleur album de ta vie.
Mm.
Ben, puis ça l'arrive souvent, mais... Et là, t'es sûr que c'est bon. Puis ça l'est, là. Je veux dire, au final, on s'entend que ça l'est. Mais crime, ça pogne pas.
Ouais.
Puis ça arrive pour plein d'artistes qu'eux, ils n'auront pas de happy ending comme Avenged ont eu, mais vraiment, cet album-là a eu un happy ending parce que finalement, ça a pogné. Puis ça l'a aidé leur carrière en maudit. Là.
Ben, c'est ça qu'ils ont fait le plus connaître.
Ça, éventuellement, bon, un jour, on va peut-être réussir à faire toutes les reviews d'albums qu'on veut faire. Le temps est précieux. Mm. Puis là, ben, on se gâte un peu, mais ce qui est intéressant avec ce genre de review d'album-là, c'est que bon, c'est la première fois que nous, on va parler de cet album-là, mais 20 ans plus tard, je veux dire, ce Ben-là a eu 5 autres albums après.
Mm.
La mort d'un des membres fondateurs du groupe. Pas fondateur, mais ben, membre des débuts du groupe.
Ben, qui était une énorme influence.
Ouais, c'est ce qui était une énorme t'sais, influence.
Il s'impliquait de plus en plus dans la création, ouais. Donc sa perte a fait que ça a comme stoppé un peu l'espèce ouais. d'ascension qui était en train de se former.
Donc là, il y a tellement de choses qui sont arrivées dans la vie des gars d'Avenged Sevenfold que c'est le fun de... d'aller en rétrospective un peu sur cet album-là. Mm. Moi, je serais curieux, JP. Là, je pense qu'on se le cache pas, les deux, c'est un album qu'on adore maintenant. Le review va quand même être très favorable. Spoiler warning, mais honnêtement, je serais curieux, v'là 20 ans, en 2005, le 6 juin 2005, quand cet album, ou dans les mois qui précédaient, ou peu importe, quand cet album-là est sorti, comment toi, tu t'es senti? Est-ce que t'as aimé ça dès le début? Est-ce que...
Ben moi, je connaissais même pas Sounding the Seven Trumpet. J'ai connu Avenged Sevenfold en 2005 avec I Want You Tonight Part 1. Et il y avait juste Waking the Fallen là. Et peu longtemps après que j'ai connu ça, ben là, City of Evil est arrivé. Et c'était avec Bad Country que j'avais découvert l'album. Mais c'était pas encore... j'ai juste reçu l'album à Noël 2005. Mais pendant l'été, c'était un de mes amis qui me feedait en Avenged Sevenfold et lui m'envoyait des tunes ici par là, ici et là.
C'est moi normalement qui se trompe dans les expressions. Ouais.
Donc là, il y avait, c'est ça, il m'a envoyé Beast and the Harlot, M.I.A. et Blind in Chains. Fait que j'avais pas encore toute l'espèce de produit fini, mais tous les tunes que j'entendais, surtout au niveau de la guitare, c'est ça qui m'impressionnait le plus.
Ça me rappelle un peu quand on collectionnait les Dragon Ball. Tu sais, on avait tout le temps comme... Tu recevais plein... Tu sais, moi, j'ai eu le 32, pour ça, j'ai eu le 28, pour ça, j'ai eu le 40.
Mm.
Puis là, tu lis, puis tu essaies de comprendre l'histoire, mais finalement...
Ben, tu sais, on se prêtait, tu sais... On
se prêtait ce qui nous manquait.
Exactement.
Ouais, exact, ouais.
Mais on avait... Ouais, c'est ça. Fait qu'on... On s'éduquait avec
les puis gens donné, quand qui t'as le tout les... Quand t'as le tout, comme toi, t'as eu le tout de l'album, ou quand tu finis tout à lire les Dragon Ball, c'est comme... Wow, OK, le tout est excellent.
Bah, puis il y a des chansons qui ont fait du chemin. Tu parlais de la première fois qu'on entend certaines chansons. C'est un album qui a donné beaucoup de deuxième chance. Chose ouais. que tu trouves que je fais pas assez avec certains albums.
Ouais.
Parce qu'ils sont poches. Donc, mais avec.
Tes goûts sont poches.
Fait que moi, je pense qu'on serait prêt à y aller.
Ben, moi, je te pose une question. J'aurais aimé ça que tu me poses la même question.
Ah, comment qu'on se sent dans ce temps-là?
Donc, pour moi, là.
Toi, comment ça s'est faufilé dans ta vie, cet album-là?
Je pense que j'avais dit dans l'épisode d'Avenge que à la base, moi j'ai découvert Awaken the Fallen, puis je trippais vraiment Awaken the Fallen, puis j'aimais leur côté metalcore pas mal. Ce qui est ironique, parce que maintenant, t'sais, on parlait de l'épisode de Bring Me, que j'écoute même pas leurs trois premiers albums.
Il y avait quand même plus de mélodies Avenge que Bring Me ouais. dans leur premier album.
Mais là, c'est ça. Avenge, l'album Waking the Fallen, moi, je trippais vraiment. C'était le best shit que j'avais entendu. Puis, tu sais, pas longtemps avant, j'écoutais juste encore du pop-punk. Puis là, j'étais rendu dans le metalcore.
Mais c'était tellement meilleur que Sounding the Seven Trumpets.
Ben oui,
c'est pour ça que quand ils ont fait leur troisième album, on s'attendait à quelque chose de big.
Ben, c'est comme ce que tu as dit. Moi non plus, j'étais pas au courant de l'album Sounding the Seven Trumpets. Je me souviens que j'ai comme impressionné les gens à un moment donné quand j'avais cette information-là qu'il y avait un autre album avant.
Ouais.
Parce que moi, encore là, Sounding, je le skip un peu parce qu'il est un petit peu trop élevé. C'est rare que je le réécoute, tu sais. Mais finalement, je me souviens, je détestais Bad Country. Je détestais Bad Country. Je trouvais que c'était la pire.
Qu'est-ce que t'aimais pas?
J'aimais pas la toune. Je la trouvais dégueulasse. Peut-être parce que je la trouvais trop pop, peut-être que je la trouvais trop soft. Je sais pas, je l'aimais pas. Puis je me souviens être allé les voir en live, en show. Et finalement, bon, City of Evil venait de sortir. C'était le show de la journée de ta fête.
Ouais.
Puis que t'étais là toi aussi. On
3 novembre 2005, ouais.
Puis,
il a commencé avec Second Heartbeat. Oui, oui, exactement. Moi, c'est là que j'ai connu cette chanson-là. Tu sais, là, quand je te disais, je connaissais pas les albums encore à ce moment-là. C'était encore... Tu sais, là, j'ai découvert Second Heartbeat alors que Wigan the Fallen était sorti depuis plus de deux ans.
Ouais, exactement.
Mais je la connaissais pas, cette chanson-là. Puis après ça, là, tu sais, là, tu peux plus m'avoir sur les chansons, mais dans ce temps-là, j'apprenais encore à connaître.
Mais moi, je me souviens, ils ont joué Bad Country live et j'ai vraiment... Puis moi, ça m'aide beaucoup des fois de voir des shows live parce que ça te fait aimer des tunes que t'aimais pas.
Mm-hmm.
Puis ils ont joué Bad Country live et je fais « Oh, wow, OK, attends, je vais donner une chance à cet album-là. » Parce que moi, je l'avais pas acheté, cet album-là. Finalement, je suis allé l'acheter. Mm-hmm. Puis je vais dire le mot journey en anglais.
Mm-hmm.
Qui serait quoi en français l'équivalent?
Ben, ce serait une quête.
Une aventure,
ce serait...
une quête.
Ouais,
quelle aventure l'écoute de cet album-là?
Ouais.
Fait que oui, je pense qu'on peut y aller track by track, Mister. Je vais te laisser le livre.
Ben, on commence l'album. Ben, en fait, l'album commence. Ça, c'est drôle, je l'ai remarqué tantôt. Beaucoup de chansons commencent par B. Les quatre premières tunes commencent par un B. Je trouvais ça drôle.
Wow!
Ben,
hey, j'avais jamais remarqué.
C'est pas...
Non, mais c'est quand même... Moi, j'aime ça remarquer cette affaire-là, man. Fait que comme... Non, c'est nice.
Bon, ben tant mieux. Merci. On commence avec Bees in the Harlot.
Oui.
Qui était déjà, quand tu parlais d'une autre direction, clairement, cette chanson-là allait dans une toute autre direction.
Ouais.
Moi, je trouvais ça dommage, cette chanson-là, parce que je trouve que c'est un des meilleurs solos d'Avenged Sevenfold. Ouais. Mais après que le solo est passé, j'avais de la misère. Puis ça, c'est une critique que je vais dire sur plusieurs chansons, peut-être dans ma critique générale à la fin. Mais c'est pas ma chanson préférée de l'album, mais c'est un des meilleurs solos de l'album.
Moi, je me souviens qu'elle était dans Guitar Hero 2.
Ouais.
Puis je pense que ça m'a aidé aussi à aimer de plus en plus la toune et l'album en tant que tel. Parce que c'est ça, même si je l'ai acheté, tu sais, là, j'ai skippé ça un peu, mais quand je l'ai acheté, je pense pas que ça a été In Love Right Away. Je pense qu'il y avait une coupe d'écoute. Ouais. Mais vraiment, Beast in the Hall, très bonne chanson. Honnêtement, tu sais, je trouve. Bon. Tu sais, on parle souvent de title track. Oui. Dans le sens que des fois, il y a des albums que... Moi, j'aime moins ça. Je dis tout le temps, j'aime toujours les titres d'albums et les titres de chansons. J'aime ça quand il y a un album qui s'appelle le nom d'une chanson. Mm. Tu sais, comme je trouve ça...
Moi, je trouve tout le temps ça dommage si jamais elle n'est pas bonne puis je ne l'aime pas.
Ouais,
c'est le nom de l'album puis c'est pas une bonne chanson.
Ouais. Mais moi,
ça rend mal, l'album.
Ben ouais. Mais moi, ce que j'aime à ce moment-là, c'est le plus comme justement quand t'as une tune qui est clairement le title track parce qu'ils disent, ils drop le titre de l'album dans Beast of the Harlot, t'entends Beast in the Harlot, excuse-moi, t'entends City of Evil.
City of Evil.
C'est un peu... ouais, exact. Merci, c'est une belle rendition. Puis c'est un peu... ça, c'est un peu combat avec Babylon, avec l'espèce de...
Ben, tous les thèmes, tu sais...
très biblique.
Exactement. Ouais. Tu parlais des thèmes bibliques dans les lyrics. Puis autant... Ça l'a commencé, puis je trouve que ça revient un peu dans les albums d'Avenged Sevenfold quand ils critiquent beaucoup l'évolution de l'humanité, à quel point on a évolué, mais tu sais, avec les dictateurs, avec comment ça se passe dans le monde, c'est pas... tu sais, il y a des choses qui se passent qu'on n'est pas fier malgré qu'on dit qu'on est le summum de l'évolution, tu sais. Puis dans ça, autant il y a des empires qui ont disparu à cause de gens cupides, autant cette chanson-là aussi, ça parle au niveau plus... rêve hollywoodien que des fois tu peux te vendre
ouais.
Parce que tu veux faire de l'argent puis que tu veux être connu, tu sais, tu peux abandonner, quitter.
C'est un peu ça le vidéoclip aussi.
Ouais, exactement. Ouais. Tu sais, tantôt, je sais pas, quand on a réécouté les clips, tu disais, hey, ça c'est wrong, il me semble c'est un enfant qui était témoin de plein d'affaires.
Ben, ouais, ben c'est un père qui amène son enfant voir comme une danseuse.
Ouais, c'est ça.
L'enfant il a comme genre 6 ans, genre.
Puis pile. Puis autant que c'est une toune qui est riche, les lyrics en général sont très riches dans cet album.
Ben oui. Bon, ouais. Oui, Avenged, c'est vraiment une force qu'ils ont. En tout cas, je me réserve des petites.
Oh, ouais.
Track numéro 2.
Ouais. On est rendu à Burn It Down.
Yes, sir.
Le single qui est sorti la veille.
Oui.
La sortie.
Exactement. Oui, le 5 juin.
L'album. Et qui avait, vu que c'est sorti la veille, ben c'est ça qui avait saisi beaucoup les fans.
Ouais.
Comment la toune
commence. Parce que ça sonne très différent.
Ouais. T'sais, même le drum était différent. Et on parlait que M. Shadows y avait travaillé pour sa voix. The Rev aussi.
Ben ouais, exact. Ouais,
avait... bon. Ben vas-y.
Oui, dans le fond, parce que quand t'as dit que le drum était très différent, ouais. Ça m'a fait penser beaucoup au fait que The Rev, je sais qu'il s'est entraîné pour pouvoir faire 210 beats par minute.
Ouais, pour jouer plus rapidement.
C'est hallucinant.
Ouais.
Quand même. Ben, tu sais, je pense qu'on sait que c'est un excellent drummer, là.
Ouais.
Mais c'est.
Mais c'est cool de voir que même s'il était déjà bon, il voulait devenir encore meilleur. Ouais. C'est dans ça qu'il s'était lancé dans ce processus créatif-là. Fait qu'on était à Burn It Down. Moi, Burn It Down, c'est une de mes préférées de l'album. Probablement mon top 3. Moi, c'est la construction de cette chanson-là. Autant Beast in the Harlot après le solo.
Dis pas ton top 3, on va regarder.
Autant Burn It Down. Comment la tune elle est construite. Il y a beaucoup de moments dans cette chanson-là. Et je trouve pas que, contrairement à Beast in the Harlot, c'est une tune qui s'étire. Même la fin, je trouve que c'est bien fait. Comment ça termine le passage à la fin. Il termine avec Sweet Child, We'll Miss You. Ce moment-là, autant musicalement que la voix, que l'émotion qui ressort de ce moment-là, fait que c'est une de mes chansons préférées de cet album-là.
Je savais pas.
Non, c'est...
J'apprends des choses.
Puis j'étais content parce que la seule fois qu'ils ont fait le Centre Bell en 2014, ils m'avaient surpris en jouant cette chanson-là. Ouais. T'sais, parce que Hail the King venait juste de sortir, puis c'était le Shepherd of Fire Tour.
Ouais.
Fait qu'il y avait beaucoup, tu sais, il avait même joué This Means War. Fait que même maintenant, il joue plus vraiment de tune City of Evil. Tu sais, il se concentre sur Bad Country, on peut le comprendre, mais que même rendu à Hail the King, ils prennent le temps de jouer une chanson qui était assez oubliée quand même, Burn It Down. Donc, parce que justement, c'était vraiment un beau moment du show.
Vu qu'elle avait pas tant pogné quand elle est sortie, je pense qu'ils ont comme un peu mis ça derrière eux. Tu sais, c'est comme bah, ce single-là, pas. Mais pourtant, finalement,
les gens étaient mal.
Recul, les gens étaient pas prêts.
Exactement. Ouais, ouais. Mal préparés. C'est préparé. Tellement différent qu'elle est tombée dans l'oubli parce que après ça, après ça, c'était juste Bad Country qu'on parlait.
Ouais, exactement, ouais. Track 3.
Blinding Chains.
Ouais.
C'est une chanson qui s'étire. Moi, même si c'est un album que je ne skip pas de tune à part une, que je skip toujours, mais cette chanson-là, il peut m'arriver de la skipper. Si j'écoute l'album au complet, je ne la skipperai jamais. Surtout parce que l'album est fait un peu en deux moitiés. Mais c'est une des chansons, surtout après les 2-3 dernières minutes, je trouve ça très long à la fin.
Okay.
Ouais.
Je sais pas si tu savais, elle était dans Décadence 3, donc Saw 3.
Pour vrai?
Ouais.
Hey, le pire, c'est que je me suis tapé les Décadences il y a pas longtemps.
Tu checkeras. Je sais pas où.
Tu peux pas me dire un moment. Ouais, c'est ça, tu sais pas où, hein?
Non.
Pas grave, mais il faut que je réécoute. J'adore les Décadences.
Moi, c'est que j'aime pas vraiment les Décadences. J'aime le premier Décadences. Après ça, j'ai arrêté de suivre. Je trouve ça trop dégueulasse. Donc, mais oui, ça, fait que je pourrais pas te dire c'est où parce que c'est une information que j'avais vue à un moment donné. Puis je me suis dit que j'avais été impressionné avec cette information-là.
Ben oui, parce que ça va rejoindre un autre de mes intérêts, les films d'horreur.
Exact.
Les thèmes des paroles en Burn It Down et Blind Chain, ça ressemble beaucoup aussi. Beaucoup de lyrics de guerre.
C'était peut-être une toune... tu sais, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'Avenge avait fait ça avec une autre toune. Là. Mais c'était peut-être une toune qui était juste une toune qu'ils ont divisé en deux aussi. Ça arrive souvent. Là, surtout, en fait, c'est que moi, ce qui m'impressionne, puis je vais sauter un peu la clôture, mais ce qui m'impressionne beaucoup dans Avenge Sevenfold, c'est qu'ils font... Ben, en plus, dans cet album-là, ils ont décidé de faire des tunes plus longues.
Ouais.
Mais des fois, déjà, ils font des tunes quand même longues. Alors qu'il y a beaucoup d'artistes qui font des petites tunes de 2 minutes, 3 minutes, puis des fois, finalement, eux sont capables d'être longs. Et à part, là, comme dans la tune que tu viens de nommer, c'est rare que ça se répète, puis c'est rare que ça s'étire. Chaque moment est important. Il y a des tunes de 9 minutes que je voudrais jamais pas l'écouter au complet.
Ouais.
Tu sais, alors que, mettons, Linkin Park en show, ils abrègent une chanson, ils font juste. Les deux premières minutes de Lost in the Echoes, mettons, là.
Mm-hmm.
Ben,
il enlève le couplet du milieu.
Ils font souvent. J'ai nommé Lost in random, mais
ben, au show. Que...
Oui, ouais. Et ils font souvent de couper des moments, puis tu le ressens moins.
Mm.
Alors qu'Avenged Sevenfold, des fois, tu sais, des fois, il y a des bands qui font des medleys pour faire plus de tunes dans un show. Avenged, je pourrais pas faire ça. Parce que je serais capable. Ben, ils pourraient, mais je serais.
Ben, pour que leur tune joue à la radio, ils avaient coupé la fin de Bad Country. On a vu le clip tantôt.
On a vu le clip, ouais, c'était weird.
Tu sais, ils coupent la fin.
Ouais.
Même Beast in the Harlot, ça finit bizarre. Quand t'écoutes le clip, là, c'est weird, tellement on est habitué de la fin de cette chanson.
Ouais, parce que le preview du prochain vidéo qui va jouer a comme popé, mais la tune n'était même pas finie. Puis, hop, ça coupe.
Ouais.
Donc, track numéro 4, parlant de Bad Country.
Ben, on arrive à la fameuse tune de Bad Country qui peut rejoindre. Des adeptes du cinéma, vu que t'es un adepte de cinéma, je peux te laisser aller sur c'est quoi les inspirations de cette chanson-là, du vidéoclip surtout.
Ah oui, hey man, oui, ben c'est un livre qui a été après ça fait en film. C'est man, j'ai toujours de la misère avec le titre. Tu me mets tellement de spots, mon tabarnak.
Fear and Loathing.
Ouais, Las Vegas. Mais le pire, c'est que je l'avais enlevé de mes notes parce que je me suis dit, c'est que j'ai trop d'informations. Puis moi, c'est pas un film que j'ai déjà vu. En fait, j'ai honte de le dire, mais je sais que c'est un classique. Je l'ai ce film-là dans ma collection.
Mais quand tu parles de décadence, c'est exactement ça. Puis c'est un peu les mêmes thèmes que dans Beast and the Harlot. Tu sais, même le clip tantôt qu'on l'a écouté, c'est ça qu'on sent, les excès. Ouais, puis Las Vegas, c'est connu pour ouais. ça. Et un fun fact, l'écrivain du livre, peu après que la chanson soit sortie, s'est suicidé.
Oh!
Ouais. Il y avait des problèmes d'alcool, de consommation aussi.
Il était vieux aussi, parce que le livre était en genre 71, je pense.
Ouais, exactement. Ouais, ben il y avait 57 ans.
Quand, le film est sorti genre...
Donc, je parle 4. De Hunter G. Thompson, son ouais. nom. C'est ça, homme y fait ses jours à 57 ans.
Bravo!
Plus longtemps après... Bravo. Ouais.
Bravo. Oh. Non, mais comme tu m'as... C'est comme quelque chose que j'ai dit, moi, j'avais pas parlé, puis finalement, tu m'as jeté à terre avec... Non, excuse.
Non, ben par rapport au film, parce que ouais. le clip, si vous avez vu le film, tu reconnais exactement, ouais. tu sais, la scène de la baignoire, parce que ça fait longtemps que j'ai vu le film, par contre, mais il y a une scène de baignoire que le gars, il est carrément défoncé, il hallucine toutes sortes de choses dans la salle de bain, et quand le solo commence dans Bad Country, dans le clip, Sin est assis sur le bord du bain.
Ben, je vais faire cette... Moi, j'adore ça quand j'écoute des films, puis que après ça, je vois que ça a inspiré des vidéoclips. Je vais les écouter. Mmh. Puis
ben, ce serait intéressant d'écouter ensemble, vu que tu dis que... Tu l'as-tu vu? Parce que
je l'ai jamais vu.
C'est ça, t'as jamais vu ça? Ben c'est, par rapport à la pop culture, c'est un film qui est je très sais. Gros.
I know. Ouais. Mais, tu vois, moi, Bad Country, quand c'est sorti, je l'ai dit, c'était une tune que j'étais comme « wesh, caca ». C'est vraiment, ils ont sell out. C'est rare. Que, maintenant, je suis pas de même, mais moi, dire qu'un band a sell out, c'est rare. Là. Je trouve que les bands, souvent, ils sell out pas. Ils font juste faire plus de trucs qu'ils veulent faire. Mais vraiment, j'avais haï cette tune-là. Puis, tu sais, justement, elle trouvait à jouer à radio.
Il l'avait coupé pour qu'elle puisse jouer à radio ouais. parce qu'elle était trop longue.
C'est peut-être pour ça, finalement, je l'aimais pas. Mais non, mais tu sais, puis au final, c'est ça. C'est leur plus connu, c'est leur plus successful. Ouais. S'il n'y avait pas eu d'autres succès, ça aurait été leur tune One Hit Wonder. Qu'on aurait pu parler dans notre épisode
de
Wonder, mais ça n'est pas eu un parce que c'est un band qui a eu beaucoup d'autres succès de radio. On parle de Hail to the King, on parle de.
Mais avec l'album blanc, il y a des chansons plus courtes
plus aussi. Plus courtes aussi.
Ouais, qui ont été très connues.
Donc, mais non, effectivement, mais Bad Country, vraiment, c'est une tune. Tu sais, maintenant, je la trouve bonne. Tu sais, maintenant, moi, je la skip pas. Puis est-ce non. que c'est ma préférée de l'album? Loin de là.
C'est un incontournable, mais
incontournable.
Qui fait partie de ta journée que tu parlais tantôt.
Exact.
Puis c'est. Malheureusement, ce qui est dommage, c'est qu'il y a tellement de chansons que j'aime cet album-là, mais maintenant, avec leur catalogue complet puis ouais. la direction qu'ils ont pris, ils jouent souvent une seule tune de Survival, ouais. puis c'est sûr que ça va toujours être Bad Country maintenant.
Ouais, exact. Puis c'est la moins longue, fait que ça prend moins de temps aussi.
Ouais, c'est vrai.
Track numéro 5, mon call, c'est que c'est cette tune-là que tu skips.
Non, c'est pas celle-là.
Oh, ok, parfait. Trash and Scattered.
Que j'ai eu plus d'informations grâce au podcast que tu m'avais
ouais,
introduit.
Parce qu'il y a un épisode Tracks. Sur cette tune-là.
Ouais.
Exactement, ouais.
Est-ce que tu te rappelles comment qu'il définissait cette chanson-là?
Chaotique.
Chaotique.
Ouais.
A fine mess. Il disait que ouais. toutes les chansons sur Celia of Evil, il y avait une idée qui pouvait construire vraiment une chanson au complet autour de cette idée-là. Mais cette chanson-là, toutes les parties de cette chanson-là, il disait que c'était chaque petite partie n'était pas suffisante
ouais.
pour faire une longue chanson sur ça. Fait qu'ils ont juste mis toutes ces parties-là ensemble.
C'est vrai.
Puis quand... Et ça, c'est important à dire. Avenged Sevenfold, quand il avait engagé le mixeur, qu'on dit, parce que tu sais, sur les albums, c'est écrit Mix By, c'est un mixeur qu'on appelle.
Ouais, ouais.
Ouais.
Chris Lordage? Non, il était sur l'album blanc.
Andy Wallace. Et quand Avenged est allé voir, il disait, nous, là, ce qu'on veut entendre sur nos albums, c'est vraiment ce qu'on joue.
Ouais.
Fait que vrai. Tout. Quand tu te concentres sur l'instrumental de Celia of Evil, tu peux être certain que c'est eux qui ont... C'est vraiment le son qu'il y avait dans... Il n'y a pas de modification sur ça. Tu sais, quand tu compares avec des albums comme Libab, tu sais, oui, là, il y a comme d'autres ambiances qu'ils ont fait, mais là, c'est vraiment que des instruments qu'on entend dans ça. Puis on verra dans la deuxième moitié de l'album qu'ils ont ajouté d'autres éléments, mais c'est des instruments qu'on entend.
Puis tu vois, moi, c'est ça, tu sais, ce que je m'étais écrit dans mes notes pour cette tune-là, c'est vraiment une tune qui est all over the place,
ouais.
mais cohésive. Tu sais, au final, le tout
fonctionne bien, ouais.
bien, exactement.
Mais les parties mises ensemble,
ouais.
c'est quand même assez chaotique, comme t'as dit.
Exactement.
Fait que pour ça, c'est une chanson qui...
J'aime le bout qui... Ah, oh, fuck, j'ai oublié les paroles, man. Cry.
crawl on me, you fucking parasite, and I'm gonna take you out. Puis là, je suis un... C'est bon. Écoute, vraiment, la guitare dans le refrain, moi, j'aime beaucoup les paroles. Fait que c'est sûr que souvent, j'aime écouter les paroles. Mais dans City of Evil, des fois, je me concentre juste sur ce qu'on entend en arrière. Et la guitare pendant le refrain, c'est incroyable. Parce que ça vaut la peine.
On parle souvent, on va parler beaucoup de Sinister Gates, à quel point que c'est un musicien incroyable.
Ouais.
Mais tu sais, Zachy Vengeance, il est bon aussi. C'est juste que le pauvre, il est... Puis lui, je pense qu'il est très bien avec ça. Mais le pauvre est overshadowed par Sinister... le talent.
Mm.
Sinister Gates, il chie du talent. Ça il sort par les oreilles. Ça... Mais Zachy est bon aussi. Fait que quand les deux s'y mettent, quand il a la... tout ce qu'ils font, c'est bon.
T'sais. Ben, faut pas oublier que c'est des parties d'un tout, un band. Hein? Ouais. Fait que sans Zachy, malgré que tu l'as dit, on pense fortement que le plus talentueux des deux, c'est Sinister Gates.
Ben, prends que le plus talentueux, je pense pas que les membres du groupe, c'est Sinister Gates.
C'est Zachy, ouais.
Avec The Rev. Dans le temps, c'était The Rev puis Sinister. Je pense qu'il y avait comme les deux un talent immense.
Grosse tête de musique.
Ouais, exactement. Tu sais, les autres, ça n'enlève rien aux autres, mais je pense vraiment. Tu sais, je sais que
beaucoup. Ils connaissent leur place là-dedans. Puis.
Pis Shadow, il est excellent pour écrire des paroles aussi, tout, mais je veux dire, c'est juste que je pense vraiment que. C'est ça.
Zachy peut pas faire des solos comme ça.
Puis il l'avoue lui-même. Il l'a dit souvent. Il a dit souvent que, comme. Souvent, il laisse Sin faire ses affaires, puis il fait ce que Sin lui demande de faire. Parce qu'il sait. Tôt dans le band, puis c'est ça qui a fait que le band fonctionne, probablement. Tôt dans le band, ce gars-là, il s'est dit ma place, c'est deuxième.
Ouais.
C'est ça.
Ben, t'as pas le choix. Hein.
T'as pas le choix, mais en même temps, tu sais, ça aurait pu virer d'une autre façon. Il aurait pu quitter le groupe, il aurait pu. Non, lui, il a dit ma place est deuxième.
En plus, c'est le guitariste au début.
Ouais,
tu sais, Sin est arrivé après. Ben oui, exact. C'est Zachy, mais c'est ça, Sin dans Waking the Fallen avait amené cette touche de plus-là au niveau des mélodies. Ouais.
Track numéro 6.
Seize the Day. Et là, je tiens à faire un lien avec le nom de notre podcast. T'es-tu un vrai fan?
Ouais.
Pour moi,
t'es pas un vrai fan.
Tu as combien de fois dans ta vie t'as entendu « Oh, j'adore Avenged Sevenfold, je connais Seize the Day. » Et moi, j'ai vécu ça avec Metallica. Quand on m'avait demandé, je connaissais pas beaucoup Metallica, et c'est ma tante qui m'avait introduit à Metallica, et que j'avais dit « Oh, j'adore Nothing Else Matters. » Puis ma tante m'avait dit « Oh, t'aimes la toune de fille. » Puis là, je l'avais pris personnel parce que c'était la balade, tu sais. Fait que là, je me suis intéressé au catalogue et tout. Mais Seize the Day, c'est la chanson tranquille, relax, mais c'est pas
juste les filles qui font ça. Ben moi, en tout cas, tu sais comment, moi, j'ai de la misère avec ces affaires-là. Tu sais, quand on dit drink de filles, puis quand on dit, ça me gosse. Mais tu vois vraiment, Seize the Day,
c'est la toune amour romantique.
Oui, mais c'est la
qui a beaucoup plus, tu sais, qui est allé chercher un public.
Avec le vidéoclip de M. Shallow qui se met tout nu.
Ouais.
Je veux dire, aussi, puis il était shapé quand même, là, tu sais. Puis, j'aime que tu m'as dit, genre, « Oh, mais les gars dans la prison, ils ont vu son pénis. »
Ouais, parce que moi, c'est ça.
De
l'angle voit de dos, mais tu sais...
Nous, on le voit de dos. Puis même ses fesses étaient censurées.
Ouais.
Dommage.
Tu sais, moi, je trouve qu'il y a une différence en dire... Je connais pas beaucoup Avenged, mais j'aime Seize the Day. Mais il y en a qui vont dire, « Ah oui, je connais Avenged, j'aime Seize the Day. »
Mais c'est vrai, par exemple, qu'il y a beaucoup de gens qui... Puis ça, c'est une affaire... Moi, pendant un bout, je me souviens que j'avais honte de dire qu'Avenged était dans mes bands préférées parce que quand tu découvres un peu plus le métal, puis on revient au titre du podcast, t'es pas un vrai fan.
Mm.
Quand tu... Il y a beaucoup de gens qui gatekeep. Ça, gatekeep, c'est vraiment... C'est comme, exemple, il y a eu ça avec Stranger Things, là, dernièrement, quand que dans la saison 4, je pense, 3, je l'ai pas vu cette saison-là, mais il y a une scène avec une toune de Metallica. Puis ce que ça a fait, c'est que ça a amené une audience plus jeune à aimer Metallica.
Mm-hmm.
Et là, ce que ça a fait...
C'est très rétro, ce qui se passe là-dedans. Hein?
Oui, ça se passe dans les années 80.
Ouais, c'est ça.
Puis là, ce que ça a fait, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à faire ce qu'on appelle le gatekeeping, qui était que eux, pour eux, ils ne pouvaient pas accepter que des gens qui ont découvert Metallica dernièrement de par une émission comme Stranger Things pourraient être des vrais fans.
Mm.
Puis moi, c'est ça qui... Tu sais, quand on fait notre podcast, c'est un peu ça qui m'a toujours dérangé. Le gatekeeping, c'est comme... Tout le monde commence à quelque part.
T'sais, c'est moi qui décide si c'en est un.
C'est vrai. Un peu le classique de tu portes un chandail de Nirvana puis quelqu'un qui vient te voir. Ah ouais, tu connais vraiment Nirvana? Donne-moi 5 chansons. Puis c'est comme ta gueule. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui portent des chandails de band qui ont aucune idée du nom du band. Puis c'est vrai que des fois, quand toi tu connais ce band-là, c'est frustrant. Mais d'un autre côté, c'est comme laisse les gens. À la limite, tu pourrais faire ah, tu connais ce band-là, puis la personne va te dire ben non, je trouvais le logo vraiment cool. Tu pourrais dire hey, peut-être que t'aimerais cette chanson-là. Puis c'est le fun d'éduquer les gens au lieu de genre les gatekeeper, au lieu de faire fuck that. Hey, t'as découvert Metallica grâce à Stranger Things, veux-tu que je te fasse écouter d'autres tunes qui ressemblent à ça?
Mm.
Puis éventuellement, tu sais, comme ta tante, c'est drôle, tu sais, ce qu'elle a dit dans le sens thème la tune. Mais ça t'a permis, toi, d'aller écouter d'autres choses, mais des fois, il y a des gens qui vont sentir aussi ben non, ben en tout cas. Fait que vraiment pour vrai. Je trouve que le gatekeeping, c'est dangereux, puis t'es pas un vrai fan, c'est le titre parfait pour ça, parce que au final, oui, il y a des gens que c'était vraiment leur tune 6DD, pas juste des femmes, que vraiment que c'est la seule qu'ils ont connue, avec peut-être Bad Country, puis qui vont dire « Ouais, moi j'aime Avenged Sevenfold », mais au final, ah, oh, puis excuse, je reviens à mon segment, pourquoi j'avais honte, c'est que pendant un bout, à cause des tunes comme 6DD puis Bad Country, les gens dans le métal te trouvais whack de dire qu'ils ont. Puis même encore, il y a beaucoup de places que tu vas voir qui vont dire qu'Avenged Sevenfold, c'est pas un vrai band metal.
Ben moi, je considère ça beaucoup plus proche du hard rock que du metal.
Ben maintenant, avec ce qu'ils ont fait, mais je m'excuse, mais jusqu'à l'album, jusqu'à Nightmare, c'est du metal. Selon moi, avec quelques. Ils sont allés chercher tellement de tous les styles. Tu sais, des fois, tu les entends.
Ben, c'est pour ça qu'on est loin du pur métal. C'est pour ça, moi, j'ai de la misère.
Oui, mais le métal, c'est large aussi, là. Tu sais, c'est trash metal. Tu sais, je veux dire,
t'as des ingrédients de métal, mais de dire que c'est du métal, moi, j'ai.
De par leur style de guitare, moi, je pense que c'est ça qui définit que c'est du métal. Mais effectivement, mais ça pour dire que pendant un bout, j'avais honte parce que quand je disais que mon groupe préféré, c'était. Puis on dirait qu'à un moment donné, je me suis trouvé whack parce que même mes groupes préférés, c'était comme Blink, Linkin Park. Puis, tu sais, Avenged, mettons, pis tu fais comme, ah ouais, ok, c'est toutes des affaires génériques. Mais quand tu t'attardes à ce qu'ils font, c'est pas vrai qu'ils sont génériques, puis c'est pas vrai que c'est Ben. Ces Ben-là sont. C'est toutes des Ben qui ont fait. Oui, ils ont été populaires, mais ça veut pas dire que c'est pas des bons Ben qui méritent pas leur popularité avec des excellents musiciens, là. Tu sais?
Ben, de là aussi, à pas chercher à tout prix à mettre des étiquettes sur ce que tu dis,
ben oui.
Sur ce que tu joues.
Puis le plus important,
c'est quand tu mets tout ça ensemble, ça fait-tu des bonnes tunes, oui ou non? Oui. Puis à cette heure, aller chercher c'est quoi exactement ton style.
Puis le plus important,
c'est important.
Si toi t'aimes ça, on s'en fout tellement de ce que les gens disent. Mm. On s'en fout tellement de. Tu sais, pour vrai, là, s'il y en a qui nous écoutent, puis qui sont un peu plus jeunes, puis qui découvrent la musique, là, puis qu'à un moment donné, ils écoutent un band, puis quelqu'un dit, ah, ça c'est pas bon. Si toi t'aimes ça, là, si toi ça vient te faire sentir spécial à l'intérieur, j'ai tapé le micro, j'espère que. Écoute-le.
Ouais.
Fuck les autres. Pour vrai, là. J'espère un jour avoir des fans plus jeunes qui vont écouter nos épisodes puis qui vont.
Ben, c'est beaucoup l'attitude que les bands ont quand ils se font critiquer.
Ben, Avenged.
Ronnie Rocky.
Ouais. Ronnie envoie chier les gens. En tout cas, ça, c'est.
Je vais juste conclure par rapport à 6DD. Ben, aussi, tu sais, de prétendre connaître un band en faisant juste citer des tunes de radio, comme 6DD a été beaucoup joué à la radio, ben c'est ça, c'est d'aller au-delà des singles, parce que souvent, il y a des tunes qui sont pas connues, qui sont extrêmement bonnes.
Ben oui, souvent, moi, il y a ben et ben que j'ai nommé justement tantôt, que les gens me trouvaient quétaine d'aimer, mais que leur mes tunes préférées de ces bands-là, c'était des tunes qui jouaient pas à la radio. Là.
Ouais.
C'est souvent, c'est des petits trésors cachés, là.
Mais ça, à la défense de 6DD, parce que c'est une toune qui a grandi en moi, parce qu'au début, je l'aimais pas. J'aimais pas la voix au début de la chanson.
Non, c'est ça.
Peut-être que j'étais pas encore assez habitué à sa voix, mais le solo, il y a comme deux parties au solo. Il y a un drum qui embarque à un moment donné dans la deuxième partie du solo, qui donne un solide rythme à la chanson. Encore une fois, après le solo, il apporte quelque chose de plus avec d'autres paroles, puis écrit, surtout la version live. Vous avez la chance d'écouter le spectacle live de Avenged Sevenfold sur DVD, Live in the LBC.
Jamais écouté.
La version live de 6DD là-dedans, ouais. c'est vraiment bon. M. Shadows y amène sa voix à un autre niveau. Et pour moi, c'est la première qui commence la deuxième moitié de l'album. Et pour les plus observateurs, vous allez remarquer qu'à partir de 6DD, si tu inclus 6DD, il reste 6 tunes. Mais c'est la première du Big Five parce qu'on va s'approcher de la chanson que moi, qui est un peu. Qui a un peu pas rapport, mais 6DD, c'est la première du Big Five que moi j'appelle parce que les prochaines chansons sont pour moi des purs chefs-d'œuvre.
Track 7.
Une autre chanson que j'ai dû écouter beaucoup avant de me laisser envahir par rapport à l'exploration qu'ils ont faite dans cette chanson-là, d'amener T'sais, je parlais tantôt qu'on entend les instruments en studio d'Avenge. Ben là, ils sont allés chercher des sons que j'avais jamais entendus. À la toute fin, la fin de Sidewinder, c'est du flamenco qu'on appelle?
Je pense que oui, j'adore. Tu
sais.
Oh man.
Ben, mais oui. Ça sort tellement de nowhere. Un peu comme quand Burn It Down était. Ben oui.
Ah oh, man, c'est tellement. C'est magique ce tune-là.
Puis il y a un bout acoustique. Can't you feel the vibe? Puis là, from. Puis là, ça repart. Ouais, exactement. C'est.
Je m'étais permis de pas le faire.
Puis si je me trompe pas, à partir de 6D, toutes les chansons sont minimum 6 minutes.
Oui, environ à partir
de. Parce que 6D est 5:30 ou 6:30, je me rappelle jamais, mais c'est. Ben, en tout cas, déjà, des tunes de plus que 5 minutes, c'est considéré comme des longues chansons, ouais. Mais Sidewinder, encore une fois.
7:3.
7:3, Sidewinder?
Oui.
C'est ça.
Sidewinder, ouais.
Ouais. Puis, j'aime parce que la tune grandit et finit sur son high.
Ouais.
Moi, je trouve qu'il n'y a aucune partie de la chanson qui est de trop, comme la première moitié où est-ce qu'il y avait des chansons qui s'étirent.
J'enlèverais rien de cette. Mais comme en fait, j'avais jamais vu ça comme ça, le Big Five ou peu importe. Effectivement, je pense que le reste de l'album s'en va juste en genre de crescendo.
Dans des puristes du métal, il y en a qui préfèrent la première moitié parce que c'est des chansons qui rentraient plus dedans. Quand on arrive passer 6D, là tu t'en vas. Quand ils disaient qu'ils voulaient aller dans d'autres zones parce qu'ils considéraient qu'on est les meilleurs musiciens, là sont vraiment allés plus dans la créativité. C'est sûr que si ça t'allume pas, comme beaucoup de gens après Libab, ça les a pas allumés. Moi par contre, c'est venu, c'est vraiment venu me toucher.
Il y a une toune dans Libab de mémoire. Qui a un espèce de moment acoustique avec justement comme le genre flamenco ou qui m'avait rappelé un peu Sidewinder parce que moi je l'adore Sidewinder aussi. Puis je me souviens plus c'est laquelle, mais puis que c'est quelque chose qu'à Avenge n'ont pas vraiment refait après, sauf justement dans l'album Libad. Là, si on reparle de Libad, peut-être que ça m'en viendra.
Puis c'est dommage parce que.
C'est
moi je trouve que cet album-là, ils ont fait. Un album avec ce qu'il faisait de mieux.
Ouais.
Puis c'est dommage quand tu veux tellement pas répéter les mêmes choses, mais tu pourrais quand même nous donner une toune de temps en temps.
Ouais, parce que c'est. Tu passes de métal à du soft, à du acoustique, à du tout ça en même chanson, puis ça revient à ce que je disais. C'est un journey.
Ouais.
C'est une aventure. C'est ça, là, tu sais.
Souvent dans les chansons sur City of Evil, tu t'imagines sur une espèce de champ de guerre. En tout cas, moi, je pense. Ouais. Moi, je me mets souvent à la place d'un soldat quand j'écoute ces chansons-là.
Ouais, écoute. C'est la ending track, c'est pas mal ça, mais on y reviendra. T'sais.
Exact.
Track numéro 8.
Si tu veux connaître la direction qu'Avenge ont voulu prendre avec City of Evil, moi, c'est la chanson que je ferais écouter en premier. T'sais, si tu dis, ah, oh, ils ont pris une autre direction, je trouve que c'est la chanson qui met plus ensemble le nouveau son d'Avenge Sevenfold.
Oui. Mais The Wicked End, honnêtement, c'est une tune très style Danny Elfman. Qui est grand compositeur qui a fait des Batman, puis
ben, son nom me dit quelque chose. Ben, mais
Nightmare Before Christmas.
Okay.
Danny Elfman, c'est Danny Elfman.
Ok.
C'est sûr, je veux dire.
Ben, j'ai déjà entendu son nom.
Ouais. Ben, c'est lui qui a fait la chanson thème de Batman des films.
Mais je suis pas un fan de Nightmare Before Christmas.
Oui. Mais,
j'aime l'ambiance, mais le film, il y a trop de chansons dedans.
Mettons l'ambiance de Nightmare Before Christmas, c'est un peu ça le Wicked End. C'est comme le style, c'est comme une toune. À la Danny Hoffman, en fait, honnêtement, c'est ça. Puis ça va. Ça se promène un peu partout encore, mais le tout est excellent.
Puis il y a. Moi, je l'ai souvent dit que pourquoi Avenge me rejoint plus que Metallica, c'est qu'ils ont des lyrics des fois qui vont tourner dans le sentimental. Ils ont des lyrics très emo par moment. Puis à l'époque, au début des années 2000, c'est ça qui pognait beaucoup. C'est pour ça que. Quand tu disais qu'ils sont sortis un peu du métal, il y en a même, ils trouvaient que Bad Country, il y avait beaucoup d'éléments punk dans cette chanson-là aussi.
Mais c'est un band vraiment qui a tout touché. Là, t'sais. Comme je disais, des fois, ils parlent de comment, en fait, oh, oui, on a mis du R&B dans cette tune-là pour s'inspirer de Beastie Boys pour cette autre tune-là. T'es comme, what the fuck,
man? Mais ils ont fait affaire avec des orchestres aussi dans The Weeknd End. Tu l'entends avec les instruments à cordes. Je suis peut-être pas un assez grand expert en instruments, mais c'est...
C'était les violons, du gros pour eux, ça. Mettre ça. Puis c'était vraiment une vraie orchestre. Là. C'était pas...
Puis c'est ça. Ça, c'est vraiment une orchestre qui est en studio. Ça, tu trouves des vidéos sur Internet. Puis tu le vois que les membres du groupe, quand ils écoutent Puis là, shit, un ami en particulier qui me le dit souvent, Sinister Gates était lui-même impressionné par le son de l'orchestre,
ouais.
De comment ils ont mixé ça dans cette chanson-là qui est parfaite. Pourquoi Avenged m'a toujours plus rejoint que Metallica, puis pourquoi je pense qu'il aurait pu devenir plus big que Metallica? C'est parce que Metallica, au niveau musical, c'est sûr que c'est des musiciens extrêmement talentueux. Mais si tu veux être un énorme groupe, moi, pour moi, ce qui est important dans un groupe, c'est que les paroles me rejoignent plus. Puis Avenged, j'avais le don quand même de marier certains thèmes, amour, guerre, des choses comme ça, qui, pour moi, je trouve qu'ils pouvaient rejoindre plus de gens que Metallica.
Track 9.
Strength of the World.
Strength of the World, man.
La plus journey.
C'est... Man. Oui. Genre, je sais même pas par où commencer. Honnêtement, genre, l'histoire de cette chanson-là est juste... intense.
C'est drôle parce bon. Qu'il commence en disant « My story starts ».
Ouais, 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 ben c'est un peu le... Tu sais, pour vrai, écoute, tu sais, « Sorrow swallow my scream », tu sais, c'est tellement... C'est un journey. Ça, quand j'ai pensé à l'album puis que j'ai utilisé le terme « journey », c'était cette tune-là que j'avais en tête, surtout.
Ouais.
C'est très Far West. Je sais qu'ils sont inspirés de Ennio Morricone, qui est un grand... tu dois pas te rendre compte, c'était pas celui de Danny Elfman, mais c'est un grand compositeur qui a fait la majorité des films genre Spaghetti Western. Là, t'sais, mettons, on parle de ben, t'sais, Sergio Leone, qui est un grand réalisateur de films Spaghetti Western,
là, ça fait une couple de fois que tu le dis, fait que je vais vraiment te le demander. Pourquoi il y a le mot spaghetti là-dedans?
Hey man, c'est
parce que là, je vais tolérer le mot western, c'est correct, là, mais pourquoi t'es...
c'est un style de western. J'ai jamais réussi à te le dire, là, mais ça s'appelle spaghetti western parce que, dans le fond, c'est le quand les Italiens ont commencé à faire des films de western, c'était pour différencier les westerns faits par les Italiens versus les westerns faits par les Américains.
C'est là, il est trop tard, même si tu le dis là, il est trop tard pour qu'on informe les gens.
Bon, on va le rajouter dans le montage.
Montage? Ça se fait, ça.
Ouais.
Ben écoute, regarde, de toute façon, ce que tu m'as dit là me fait avancer, ouais. Moi, personnellement, parce que je connais rien au western.
Mais tu vois, c'est ça. Fait que, Ennio Morricone, d'ailleurs, qui est décédé la journée de ma fête en 2020. Fait que ça, c'est très triste. Mais, tu sais, c'est ça, tu vois, comme Ennio Morricone, c'est lui qui a fait The Ecstasy of Gold. Qui est une tune que Metallica a repris aussi à un moment donné, mais ouais. Qui est la tune dans The Good, The Bad and The Ugly.
Oui.
Fait que si ça peut donner un vibe, Strength of the World, c'est ça. C'est comme un espèce de puis tu sais, ils sont aussi inspirés de Kill Bill, de Quentin Tarantino. Fait que c'est comme un... C'est pas une chanson qui montre une émotion de colère. C'est une chanson qui montre une émotion de vengeance. Mais c'est pas
sur le deuil. Ben sur le deuil aussi, il y a un passage dans la chanson quand il dit sitting in silence with quelqu'un around me là. Moi j'imagine une scène dans un cimetière que
ouais. Ouais, il a perdu sa famille, lui c'est une vengeance.
Exactement.
C'est vraiment ça.
Ouais.
C'est
un deuil pas résolu, ouais. Et le désir de ben, vengeance.
C'est planifié, puis c'est pas une vengeance, c'est un meurtre prémédité. Sa vengeance c'est comme lui il s'en va tuer ceux qui ont tué sa famille, puis c'est Far West, man. C'est... Ah, man, pour vrai...
Revenge is dripping from my teeth. Tu m'as blessé, mais watch out.
Watch out, man. À ce moment-là, c'était leur tune la plus longue. Jusqu'à Nightmare, probablement, avec Save Me.
Ouais.
Mais...
Puis Cilia Vivol, qui est resté pendant longtemps l'album le plus long d'Avenged Sevenfold.
1h13, hein?
Ouais.
Quand même.
Puis c'est... The Stage qui l'a dépassé de quelques secondes.
À cause de leur tune de 15 minutes, là?
Ouais, je le sais, puis... On va en parler de cette chanson-là. Parce que quand tu parles d'un ram... En tout cas... Strain of the World, moi, je la trouve construite comme Sidewinder.
Ouais.
Quelque chose de long qui mérite d'être écouté plusieurs fois et qui se termine avec...
Moi, je ne tanne pas.
Une expérience
ouais.
Audio incroyable à la fin avec violon et batterie en arrière. C'est une chanson... En tout cas, moi, c'est une de mes chansons préférées d'Avenged Sevenfold overall.
Moi aussi.
Ouais.
Ouais, moi aussi. Honnêtement, puis j'étais content qu'on ait fait un épisode de Tracks dessus, puis j'étais vraiment content. Est-ce que tu savais que Papa Gates joue un peu dans la tune aussi? Donc, le père de Sinister Gates, qu'il appelle Papa Gates,
ouais.
Fait genre le bout de slide guitar. C'est lui qui le joue dans la
okay.
C'est quand même cool. Je pense que c'est probablement la première fois qu'il jouait dans un album avec eux, mais il a fait d'autres trucs après ça avec eux.
Parlant de guitare, oui? Je me suis familiarisé avec le terme shredding. S'il y a des guitaristes qui nous écoutent en ce moment, ouais, vous pouvez tester ma connaissance du shredding. J'ai fait de ma recherche là-dessus. Parce que quand ils ont fait l'album aussi, ils s'étaient inspirés de bands un peu scandinaves de pays européens.
Genre Children of Bodom.
Exactement. Ouais. Parce que Children of Bodom venait de percer en Amérique du Nord avec A Crew Death Roll en 2003. Et le chanteur-guitariste de Children of Bodom était reconnu pour jouer extrêmement rapidement. Et après ça, quand on a dit qu'il avait amélioré au niveau du shredding, ils ont dit que c'est pas juste de jouer vite, c'est d'avoir aussi une bonne connaissance de la musique, des ingrédients qui fait un bon solo de guitare. Est-ce que ça fonctionne dans la chanson? Est-ce que la mélodie va être bonne? Est-ce que c'est nécessaire de jouer aussi vite? Tu sais, des bandes comme Dragon Force, là, que moi, des fois, j'ai des passes. Tu parlais de passes tantôt. Moi, des fois, j'ai des passes. Je vais écouter du Dragon Force. Mais, hey, il y a tellement de notes là-dedans. C'est tellement rapide.
C'est la tune que tu voulais pas jouer à Guitar Hero.
Là. Ben oui, True Fire and Flames. Ouais. C'était la tune connue à Guitar Hero. En passant, tu parlais des Gatekeepers. Guitar Hero, pour les gamers, ça les a introduits au monde de la musique.
Ben beaucoup. Oui, moi, ça m'a fait découvrir.
Je sais pas qui a eu l'idée de faire les jeux comme ça, mais, hey, toutes les bandes devaient être contentes parce que, hey, les gamers vont. Autant aussi les joueurs de NHL qui ont connu beaucoup de bandes grâce à NHL.
Ouais, Tony Hawk, Skater, les soundtracks de Insane.
Ouais.
Les jeux.
T'sais, c'est juste bon. T'sais, comme tu disais, c'est juste bon. Ça fait connaître la musique.
Ça fait connaître, ça fait changement de Big Shiny Toon 6, mettons.
Oui, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu ailles voir au-delà de ça.
Oui.
Si tu dis, ah, oh, j'ai connu ça là-dedans, Chris, à un moment donné, c'est get a life.
Get a life, man. On revient-en avec ton Big. À un moment donné, je vais faire un montage de toi toutes les fois que tu nommes Big Shiny Toon 6.
Ouais,
Big Shiny Toon, point.
Ouais, parce que ça avait été différent. Son of the World, quand mon père avait ouvert sa station de radio, on s'était rendu au Saguenay pour l'inaugurer et j'avais conduit ma mère et j'avais fait jouer du Avenged Sevenfold dans mon auto.
J'imagine Sylvie écouter du Avenged Sevenfold, je trouve ça nice.
Et quand Son of the World avait commencé, parce que le coach de voix avec qui M. Shadow a travaillé, il a ajouté le côté grinçant dans sa voix. Et au début de Strain of the World, on le sent beaucoup.
Parce que M. Shadow voulait vraiment différencier sa voix des autres chanteurs. Il voulait vraiment que ça sonne. Il voulait trouver son style. C'est normal, là, mais ouais, excuse-moi.
Mais tu les vois les ressemblances avec Axl Rose quand même.
Oui, oui, quand même.
Comment il porte sa voix.
Si tu me dis que c'est le même coach, je comprends. T'sais.
Elle avait dit, on dirait un chien qui monte les dents. Puis quand cette tune-là commence, puis c'est vrai, l'image, moi, je trouvais qu'elle était bonne.
Ouais, c'est pas une bonne. As-tu aimé ça?
Non.
OK. Track 10, Betrayed.
C'est la tune la moins forte de l'album. C'est le moment le moins fort de l'album.
De là, la skipper, parce que c'est celle-là que tu skippes, tu l'as pas nommé avant.
Ben, pour préparer l'épisode, je l'ai écouté. Il y a des bons moments dans cette chanson-là, mais c'est juste des moments bons sans être excellents qui fait que ça m'enlève. Surtout que là, je viens de passer de The Wicked End, Strain of the World. Et là, c'est comme si Betrayed me freine freine la montée vers de l'excellence. J'avais juste des tunes excellentes. Depuis 6D, juste des tunes excellentes et Betrayed vient freiner ça. Puis peut-être que je la skip parce que elle keep pas up avec le reste. Sur un autre album, peut-être ça aurait été une excellente chanson. Mais là, à cause qu'elle est dans l'ombre des trop bonnes chansons, moi, c'est pour ça que Betrayed, c'est pas une chanson que je réécoute. Je vais l'écouter. Ben,
ouais,
là,
je comprends.
Le seul moment que je vais l'écouter, c'est quand je me dis, là, j'écoute l'album au complet. Mais sinon, je vais jamais dire, j'écoute Betrayed.
Est-ce qu'on peut en faire la prochaine?
Non, parce que je m'étais demandé, pendant longtemps, vu que c'est une toune que je skip, je me suis pas intéressé beaucoup, mais je me rappelais que ça disait que c'est une toune en hommage à quelqu'un.
Oui, oui, oui.
Et on connaît
l'influence de Pantera.
Exactement. Ouais. Et c'était le guitariste.
Dimbag.
Daryl Abbott.
Mais son nom.
Dingman.
Non. C'est.
On l'a ici.
Ah,
là,
c'est qui, mais c'est Dimbag quelque chose.
C'est Dimbag, c'est vrai, t'as raison. C'est quoi j'ai dit? J'ai dit Dingman, hein? Dingman, pas rapport aussi.
Pas rapport. Mais oui, parce qu'il est décédé...
De manière fucked up!
Ah oui, il s'est fait tirer sa scène!
C'est vrai! Oh my God, oui, il s'est fait tirer sa scène!
Il paraît qu'ils ont pas fini le show! Gang de crosseurs! Ah, c'est un peu ordinaire. Tu sais, on parle du Sophia qui a eu un meurtre, le restaurant qui a eu un meurtre, puis le lendemain était ouvert. Eux, ils ont pas fini le show.
Ouais, c'est ça. T'sais, il me semble qu'à
Mais c'est horrible, c'est vrai, j'ai oublié, mais il est mort pas longtemps avant que l'album sorte. Il est mort en 2004.
Il est mort en 2004, effectivement.
Puis, ouais. Hey, c'est vrai, j'avais oublié que ça avait tiré sur un show, man.
Puis là, j'ai pas de mérite en parce live. Que je suis allé le lire juste avant qu'on fasse l'épisode. Là.
Je vais couper ce bout-là parce que je vais te laisser.
Ah, ok, tu veux dire, ça parle de quoi, la chanson?
Non, mais je vais couper... Ah, vas-y, excuse.
Ah, non, mais parce que la chanson, c'est sous trois points de vue différents.
Okay.
Celui du chanteur, celui du guitariste fait tuer et celui du tueur aussi.
Oh, wow! Hey, je vais la réécouter, hein, sa chanson.
Parce que dans la chanson By a Man Who Fell Betrayed, il semblerait que le fan en question qui avait tué le guitariste parce qu'il trouvait que le groupe les avait trahis, probablement pour un changement de son aussi.
De mémoire, c'est quelque chose comme ça.
Ouais, fait que c'est un fan qui s'est senti floué.
Ouais.
Ça, c'est prendre la musique sous. Tu sais, tu peux être déçu d'un album, mais ça, c'est un coche.
Peut-être qu'on parle que des fois, un fanbase est toxique. Là. C'est ça. C'est vraiment. Oh, ouais. Tu sais, Architects, ils en ont vécu aussi. Là. Ils ont eu tu sais, quand ils ont changé leur son, ils ont eu des menaces de mort. Pis,
ben, tu m'avais appris pour la Toon Sing Red de quoi ça parlait.
Ben oui, on en reparlera.
Excellent chanson.
C'est sûr qu'on va parler de cet album-là. Track 11?
M.I.A.
Missing in Action.
Oui.
M.I.A. Qui est, je suis resté silencieux là-dessus, je vais dire mon top 3 après.
Oui.
Mais qui est ma toune préférée de l'album? Moi,
pas d'Avenged Sevenfold.
Non, pas d'Avenged
Sevenfold. OK.
Puis, funny enough, en tout cas, non, je pourrais me trahir en me disant que ma toune préférée, tu sais, je pourrais dire que Strength of the World est ma toune préférée d'Avenged Sevenfold, mais que M.I.A. c'est la toune préférée de Sylvie Vivo, puis ça ferait pas de sens. C'est vrai. Dans ma tête, ça en ferait. Mm. M.I.A.
L'important, c'est de bien le vendre. Pas le dire à...
Exact.
Ouais.
M.I.A. Qui est... Avenged Sevenfold sont bons pour leur closer d'album.
Oui.
On peut parler de Save Me, on peut parler de... And All Things Will End.
Excuse-moi. Parce que quand tu parles, ils sont bons pour closer. Je me rappelle d'une discussion qu'on avait parce qu'on attendait ton char parce qu'il réparait ton système de son dans un Future Shop.
Oh, non, on faisait installer le système de son.
C'est ça.
T'étais avec moi?
Oui, oui.
Oh,
ben,
wow!
C'est là qu'on avait renoué contact. Puis là, on avait découvert qu'en plus des jeux vidéo qu'on aimait, on aimait beaucoup la musique aussi.
Ouais.
Et là, moi, j'avais acheté ma copie de Waking the Fallen dans le Future Shop pendant qu'on attendait pour ton système de son.
Aïe, aïe.
Puis tu m'avais été parce que...
Tu savais quoi?
Tu m'avais fait rire.
OK.
Parce que, en fouillant tes poches, t'avais trouvé du cash comptant.
Ouais.
Puis toi, t'étais très avant-gardiste par rapport à la technologie.
Depuis très longtemps, ouais.
Exactement.
Les points, moi, puis... j'étais une pute à points, j'ai dit tout le temps. J'ai mes points. Puis
quand on va acheter des billets, il dit, oh, je vais voir si je peux mettre ça sur ma carte pour les points. Fait qu'il prend nos points. Bon. Mais c'est surtout que t'étais tellement rendu à un point technologique qu'avoir du cash comptant pour toi, ça t'inquiétait.
Ça me fait chier. Ouais, parce que.
Pourquoi j'ai du cash chez moi? Mais t'étais inquiet.
Oui, parce que je mettais mon argent tout de suite. C'est tellement pas important dans l'épisode, mais je mettais mon argent tout de suite en banque. Puis aussi, en fait, c'est que souvent, c'est que là, je me disais, parce que, en tout cas, j'ai prêté beaucoup d'argent pour des gens aussi, là, dans mon jeune temps. Puis les gens, en fait, c'est que des fois, je me disais, si j'ai de l'argent sur moi, je suis censé savoir ça vient d'où parce que c'est quelqu'un qui m'a remboursé.
Il ouais.
faut que je l'ai écrit dans mes cahiers.
Oh, ouais.
Puis là, c'était ça, c'était comme, j'étais un prêteur sur gage. C'est ça, genre là, je me disais, prends pourquoi j'ai cet argent-là qui m'a remboursé.
Mm.
Genre, est-ce que je l'ai écrit quelque part? Est-ce que... ouais, bon.
Puis on avait échangé sur les closures d'albums. Que tu disais, moi, ce que j'aime d'Avenged Sevenfold, c'est comment ils ferment leur album. T'es un fan de All Things Will End.
Ouais.
Et t'es un fan de M.I.A.
All Things Will End.
Nobody can touch us.
Non, mais... hey, ça, we can fall, on va. Mais oui, non, mais c'est juste parce que c'est vraiment End All Things Will End. Il me semble qu'il y a le...
Oui, parfait. Il y a le End.
Mais ouais. Donc, bon, moi, j'ai adoré ce closer-là.
Mm.
Et là, M.I.A. qui est un autre excellent closer, qui est... une toute qui est un peu moins longue, qui est 8 minutes quelque chose.
8 minutes 48.
Ben là, ça varie des fois de ce que sur où tu l'écoutes, mais oui.
Ouais.
Et donc, bon, ça parle de la guerre. Tu parlais de narratif de guerre tout le long. Ça vient encore bien closer l'album. J'avais pas vu cet aspect-là, puis là, je le vois encore plus.
Mm.
Bon, moi, j'adore les paroles. 2 million soldiers can't be wrong. Fait que, tu sais, c'est vraiment.
Ben, c'est ce qu'on implante pour que les soldats croient en la mission.
Exact. Fait que, tu sais, mettons, tu parles, je sais pas, la Deuxième Guerre mondiale, chacun des bars, là, défendent leur pays pis ils se disent ça. On peut pas être dans le tort. C'est pas nous qui a tort. On défend notre pays. On a raison. Fait que, c'est, là, c'est le côté d'un soldat que lui a un doute. Il est là pis il sait qu'il y a un doute. Pis moi, j'aime, I shot a mother right in front of her son.
Ouais.
Tu sais, l'image, elle est poignante. Tu dis, les traumatismes qu'ils vivent, I take their lives so they can't take mine. Parce que c'est ça.
C'est des gens qui
oublient. C'est la survie.
Exact.
C'est ça. Excuse-moi. Les gens l'oublient que...
Non, mais parce que en voulant dire, t'as dit ce que je voulais dire. Que c'est que, ouais, que le monde oublie que quand t'es en mode survie, le monde, il pense qu'en mode survie, ils peuvent prédire comment qu'ils réagiraient.
Non, non. Pas pantoute. Non, pas pantoute.
T'sais qu'il y a des bombes qui sautent autour de toi, t'entends des balles de fusil te frôler le côté de la
tête. Tes amis meurent tous à côté de toi.
Si t'as l'impression que toi, faut que tu tues pour sauver ta vie, tu vas tuer pour sauver ta vie.
Il y en a qui non. Il y en a qui sont pas capables, puis c'est correct aussi.
Mais c'est de... Tu peux pas aller là, puis c'est pour ça quand tu parles des soldats can be wrong, tu peux pas ne pas croire à la mission avec... Tu peux
pas ne pas croire à la
comment
mission.
Comment tu te mets en danger.
Puis à la fin de cette chanson-là, quand ça devient soft, qui
est... Hey, tu sens la boucane puis les cadavres partout.
Puis quand il dit « A murderer walks your street tonight », parce qu'à la fin, au final, lui, il a tué des gens. Puis même si c'était valide, même si c'était pour sauver... Ça, il les a tués pareil. C'est un meurtre. Il y a du sang sur les mains. Et cette chanson-là, là, autant que Strength of the World est venu nous emmener à quelque part, moi aussi, cette chanson-là, c'est un autre journey. C'est un autre chemin.
T'entends quasiment les mitraillettes dans cette chanson-là, tellement il arrive à nous faire vivre un champ de bataille.
Ouais. Puis tu vois une toune qui est similaire... À ça, c'est One de Metallica.
Ah, le clip, il était peurant.
Ouais, je l'écoute pas. Ouais. ça, puis Closer by Nine Inch Nails, c'est moi traumatisé quand j'étais plus jeune. Mais.
Ça, je connais pas assez Nine Inch, puis c'est bon. J'écoute ça.
Ouais. Mais One, c'est une autre chanson qui nous transportait, qui nous emmenait quelque part. Puis M.I.A., c'est ça aussi. C'est deux tunes différentes, mais c'est le même. C'est comme. Mais dans One, t'as les coups de fusil, t'entends. Dans une des versions.
Oui, oui, oui.
T'as une version sans, mais. Puis t'entends comme. Mais puis c'est sur un. L'histoire de One est vraiment intéressante aussi.
Mais côté paroles, je trouve qu'Avenged sont meilleurs que Metallica.
Oui.
Je trouve que tu vas ressentir beaucoup plus d'émotions en écoutant M.I.A. que n'importe quelle autre chanson Metallica, même si je vais respecter la qualité de musicien que sont Metallica.
Mais tu vois, moi, One est venu me faire. C'est pour ça que j'ai mis avec. Parce qu'effectivement, moi aussi, je trouve que Metallica, des fois, sont un peu plus flat, un peu plus... On sera pas aimé en disant ça, mais c'est ça. Moi, je trouve vraiment que... Oui, comme tu disais, Avenged est un meilleur groupe que Metallica, selon moi aussi. Mm. Mais bon,
Mais plus me toucher. Ce qui m'avait déçu, c'est que quand t'as parlé du show du 3 novembre 2005, où est-ce que c'était le moment pour entendre des chansons de Seed of Evil? Parce que, hey, le show... Quand tu regardes, si tu connais pas Avenged, tu regardes, ils ont juste joué quoi, 9 tunes? Ah, mais c'est parce que les tunes durent 7, 8, 9 minutes.
Ouais.
Puis ils avaient joué ce soir-là Wicked End, Strength of the World, M.I.A. Puis ce que j'ai trouvé dommage.
Je connaissais pas dans le temps parce que moi, j'avais pas pris le temps d'écouter l'album.
Moi, avant d'aller voir ce show-là, je connaissais juste M.I.A. puis Blinding Chain sur cet album-là. Ouais. Fait que Strength of the World et The Wicked End, je les ai entendus pour la première fois là. Puis c'est plate parce que j'ai pas de souvenir vraiment.
Non plus, clair. J'ai, tu me dis ça, puis j'ai aucun souvenir.
Écoute, c'est à quelque part dans moi, j'espère, peut-être.
Tu vois, on était là en même temps. Mais on n'était pas.
Mais on n'avait pas.
Un jour, encore... on va raconter aux gens qui nous écoutent comment on se connaît.
Oui.
Notre histoire. Un jour, on fera ça.
Ce que j'ai trouvé décevant, ben, vu que je connaissais M.I.A. déjà avant le show, j'étais content qu'il la joue, premièrement, parce que le solo là-dedans à la fin, c'est incroyable. Mais aussi, pour rassembler les gens, M. Shadow, je me rappelle ce qu'il avait dit avant. « You don't give a fuck about my politics, I don't give a fuck about your politics. » Mais tout le monde est d'accord que les soldats qui vont au combat, ben, il y a des familles qui attendent leur retour et tout ça. C'est pour ça qu'ils chantaient, ils trouvaient ça important de chanter une chanson qui a rapport à la guerre. C'est un thème qui les touche beaucoup. Surtout, je pense, probablement plus quand t'es aux États-Unis aussi. Je pense que c'est un thème qui est plus sensible pour eux.
Comme la religion aussi, tu sais. C'est tout des trucs aux États-Unis, on dirait qu'ils sont beaucoup plus.
Puis ils avaient joué cette chanson-là. Mais là, avec la sortie de l'album Blade plus tard, j'étais déçu parce que le thème de la guerre, ils l'avaient repris dans Gunslinger.
Ouais.
Fait que leur tourne de guerre, c'était devenu Gunslinger. Fait que ça m'enlevait espoir de réentendre M.I.A. Puis M.I.A., c'est une tune qui... Ils l'ont rejoué après 2014 un peu de temps en temps. Mais je rêve de pouvoir la réentendre.
Peut-être un jour, ils vont faire un... Tu sais, on trouve qu'ils n'ont pas fait grand-chose, je pense, pour le 20e anniversaire de Seed of Evil.
Ouais.
Puis c'était le 15e anniversaire de Nightmare aussi, là. Ils ont comme on dit, ils ont fait un show, mais comme c'était comme passé inaperçu un peu parce que.
Un show quand ça?
Il avait fait un espèce de mini show, là, un live stream là, qu'on a payé.
Ben c'est ça, c'est un show qui jouait juste des choses avant 2005, je pense.
Ça a été nice.
C'était au mois d'octobre. Ouais, c'est le 20 octobre 2024.
Mais bon, peu importe. Ils ont ressorti les vinyles de Seed of Evil, fait que ça veut dire qu'ils sont vraiment plus nice que celui que j'ai, fait que je vais peut-être en racheter. Mais bon, Tu sais, moi, j'irais...
Ben, il faut aller overall.
Overall, parce qu'il y a quelque chose que je me retiens de dire depuis tantôt dans l'overall. Je me suis dit, je vais le garder pour l'overall.
Ouais.
Quand on parle de M&M, non, c'est pas l'épicerie. Quand on parle de M&M, on parle de M&M.
Genre, quand on n'a pas parlé pendant l'épisode.
Oui. Mais quand on parle de M&M, on parle de M&M avec ses paroles, nous amène, nous raconte une histoire. Ouais. M&M est très, très fort pour nous raconter une histoire qu'on oublie qu'il rime, qu'on oublie qu'il... C'est tellement seconde nature pour lui de faire ça. Les gars d'Avenge, ils ont été capables de nous raconter une histoire un peu de la même façon. Côté lyrique, côté... Ouais. C'est tellement puissant que ça nous transporte. Mais en plus, ils ont quelque chose que M&M n'a pas. Ils ont un Ben aussi talentueux qui vient backer leur lyrique tellement, tellement d'une belle façon que vraiment, là, j'ai l'impression de vivre un film.
Ben, c'est surtout que la musique nous touche plus que le rap aussi. Là. T'sais, quand tu parles d'un band qui vient backer, c'est sûr qu'Eminem, lui, ce qu'il fait, c'est pas de la musique de band.
Ben, encore là, ça dépend parce que Eminem, bon, Eminem, il y a des tunes avec de l'instrumental beaucoup plus puissant, mais je parle que overall, c'est un artiste qui tellement bon de sa voix, de ce qu'il nous raconte. Puis je trouvais jamais... Quand j'ai réécouté Sylvie Wall avant l'épisode, c'est ça le parallèle que j'avais. C'est comme, hey, ces gars-là font ça avec des tunes comme M.I.A., avec des tunes comme Strength of the World, avec des tunes comme Wicked End. C'est vraiment... Puis tout leur tune, mais surtout...
Créer des images dans nos têtes.
Créer des images dans nos têtes. C'est ouais. Des films. Mm. C'est vraiment ça, puis c'est le tout. Les lyrics, puis l'instrumental qui vient nous amener, nous transporter à quelque part. C'est le journey que moi, je parlais.
Puis, il passe... Beast and the Harlot, c'est la tune que le parallèle est plus clair entre les empires de l'ancien temps qui se sont écroulés à cause de gens cupides. Mais eux, ils en parlent en termes de... En tant que band, en plus un band californien, tu sais qu'on parle beaucoup que le vice se retrouve dans des places comme Las Vegas puis tout ça. Si je veux aller overall avec Cydia of Evil, c'est mon album préféré d'Avenged Sevenfold. Je suis déçu que Avenged Sevenfold plaît souvent qu'ils veulent pas refaire de ce style-là.
Qui ont triché à Nightmare. C'est un peu ça qu'ils ont...
Ouais, quand ils ont voulu réécrire, ils voulaient retomber dans des chansons plus longues
et tout.
C'est plate parce que c'est ça qu'ils peuvent faire de mieux à Avenged Sevenfold. Ils ont ce potentiel de faire ça, puis ils veulent pas répéter. Le débat est lancé. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je pense que ça peut juste pas être... Les nouvelles choses qu'ils vont faire, ça pourra pas être aussi bon de qu'est-ce que ça a donné sur cet album-là. Si... J'avais donné 9 sur 10 sur Next Gen, j'étais obligé d'aller... Au-delà, la première moitié met en place la deuxième moitié. Moi, la deuxième moitié, à partir de 6D, je trouve que c'est la partie la plus forte de l'album. Je peux pas donner une note parfaite parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de chansons dans la première moitié qui s'étirent à la fin. Beast in the Harlot, j'aurais quasiment arrêté après le solo. Blind in Chains aussi, je l'aurais coupé. Trash and Scattered, la fin aussi, je trouve, s'étire beaucoup. À partir de 6D, par contre, la deuxième moitié... Malgré que je skip Betrayed, donc je pourrais pas donner une note parfaite à cet album-là, mais je vais aller donner un solide 9.6 à cet album.
Ah, ok, on fait des points 6. Ok, ok.
Ben, c'est parce que il faut qu'il soit au-dessus de Next Gen pour moi. Okay. J'ai donné 9, puis 9.5 c'était pas assez, fait que j'ai oublié d'aller à 9.6.
Mais ça, en tout cas, on a eu une discussion en ronde, puis moi je t'avais praise de pouvoir donner une bonne note à un truc comme Next Gen, alors que. Parce que des fois, quand on donne une note, il faut que ce soit pas juste... Pourquoi je pourrais verbaliser ça? Mais il faut pas que ce soit juste sur... Il faut que ce soit sur l'environnement de la sortie. Il faut que ce soit sur par rapport à ce que... Il faut pas juste comparer. Tu peux pas dire, ben si j'ai donné à Next Gen 9, je suis obligé de donner 9.5. Parce que un album d'un band à un autre, puis d'un era à un autre, puis d'une année de sortie à un autre, c'est des valeurs différentes.
Ouais, je comprends, mais moralement, moi, je pourrais jamais donner. Moi, il faut que je donne une note.
Non, mais j'avais trouvé bon, parce qu'avec Next Gen, justement, je pense que tu l'avais fait. Mais moi aussi, de toute façon, pis c'est. Oublie la note que j'ai donnée à Next Gen, parce que ça, c'est le vivo. Pis c'est ça. C'est le vivo, moi, j'y donne peu importe la note que j'ai donnée à n'importe quoi d'autre avant, j'y donne à 9.5. C'est parce que je trouve que c'est un excellent album. Mon préféré, je le sais pas.
Je sais pas. Probablement. Mais non, non, non. Non, mais je sais pourquoi. Mais encore là, moi, c'est mes émotions. Mais tu sais, c'est un excellent album. Puis moi, mon top 3 de City of Evil, puis je vais te demander le tien après, c'est vraiment ce qui est presque les trois plus longues. Presque. Parce que c'est MIA, Strength of the World, puis Sidewinder. Mais Sidewinder est 7 et 1, puis je pense que c'est Betrayed qui est 7 et 10, ou The Wicked End qui est 7 et 10. Fait que,
ouais.
Fait qu'il y a une tune qui est un peu plus longue, mais moi c'est presque le 3 plus long. Mais bon, ton top 3, ce serait?
J'ai, ben, moi c'est sûr que MIA et Strength of the World vont toujours être les deux meilleurs de l'album. Ce que je trouve plate quand tes tunes préférées, c'est des longues tunes. Ben, des fois, avant de te rendre au travail, ben, t'as pas le temps d'écouter d'autres tunes que ça parce qu'elles sont tellement longues. L'autre, après ça, la troisième serait Burn It Down, comme j'ai parlé tantôt, mais elle serait suivie de très près par The Wicked End. D'où la richesse de composition, de qu'est-ce qu'ils ont mis ensemble dans The Wicked End.
Donc, overall, c'est un gamble qui ont réussi de changer de style, d'aller vers quelque chose d'un peu plus commercial. Parce que ça l'a payé. C'est ça qui les a amenés à faire, à bouger. C'est ça qui les a amenés à aller plus loin aussi dans leur musique. Puis c'était bon. C'est un bon produit. Puis 20 ans plus tard, avec tout ce qu'ils ont sorti après, ça reste un album qui a sa place dans le temps. Là.
Ben oui, puis le niveau de guitare qu'il y a là-dedans a été nommé dans des revues de guitare importantes, Guitar World. Plus commercial, qui peut. Ben, parce qu'à cette époque-là, ils disaient que le metalcore, ça pognait encore beaucoup. Puis il y a plein de bands qui sont tombés là. Puis eux, ils ont décidé de faire autre chose parce que le metalcore, ils y avaient déjà touché. Fait qu'ils voulaient changer leur direction. Quand on dit que ce sont. Moi, je pense vraiment qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient. Par contre, je suis pas prêt à dire qu'ils ont pris un style.
Non, c'est un band qui a toujours fait ce qu'ils
voulaient. Un style pour pogner. Je pense que c'est là qu'ils voulaient aller. Les témoignages des producteurs vont dans ce sens-là, c'est toujours ça qu'ils ont voulu faire. Puis, tu sais, on peut dire, moi j'entendais des gens, le guitariste veut trop imiter Slash avec son chapeau. Moi je trouve que Health the King à ce niveau-là est bien pire que City of Evil quand tu parles de.
Imiter.
Si tu veux plaider qu'ils ont voulu imiter des bands. Health the King remporte la panne.
Ben, ils l'ont dit eux-mêmes, là, pour Health the King, que c'était ça le but.
Tu sais, parce que quand on compare Seize the Day avec November Rain, c'est quand même une chanson différente
de November Rain. Complètement.
Tu sais, la vibe, oui, du couple, le décès, puis tout ça. Je ne m'avais pas exactement du clip de November Rain. Oui, on peut les comparer, mais c'est vraiment.
Tu peux aussi t'inspirer. Puis c'est ça que les gens oublient des fois. Tu t'inspires. Ouais. C'est normal de s'inspirer. Ils ont été inspirés par Guns. C'est sûr que c'est un band qui tu sais. Mm. Fait que non, overall.
Pantera aussi.
Pantera, ben oui.
Ouais. Donc, on serait rendu à notre segment des tunes du moment.
Oui.
On a terminé notre bonne review de City of Evil. Bon 20 ans. Bon 20 ans, City of Evil. Bon 20 ans, City of Evil.
La pochette qui est cool quand même. Qui est reconnaissable.
C'est quoi ta tune du moment?
The Cost of Giving Up, qui est une toune de Poppy. Ces temps-ci, quand je veux faire découvrir Poppy à des gens, c'est cette toune-là que je fais écouter. Puis ça fait que je la trouve catchy, elle rentre dans la tête. Et elle était produite par...
Jordan Fish.
Merci. Donc, c'est ma toune du moment.
Il n'y a pas de choix de réponse. S'il fait ça, c'est parce qu'il veut qu'on dise Jordan Fish. Même si la chanson n'a pas été produite par lui, il veut qu'on parle de Jordan Fish.
Elle a été produite par lui. Puis, honnêtement, c'est dans son dernier album, là, Negative Space. Donc, honnêtement, je la recommande. Et toi, ta toune du moment, JP?
Je suis dans un gros trip de Bad Religion présentement. Je suis retombé là-dedans parce que c'était un groupe qui était resté actif pendant la pandémie et il avait fait 4 samedis en ligne. Des shows en streaming qui se concentraient sur une décennie au complet. Fait que le premier show, c'est les années 80, deuxième show, c'est 90, et ainsi de suite. Hey, quand tu dis que c'est un band qui roule sa bosse depuis 40 ans, c'est assez impressionnant de pouvoir couvrir 4 décennies. Donc, dans mon trip de Bad Religion présentement, j'écoute beaucoup la toune You, qui était sur l'album No Control en 1989.
Cool.
C'est ce qui clôt l'épisode d'aujourd'hui.
Ouais.
Ben, bon été, tout le monde.
Donc, c'est possible qu'on prenne une pause cet été. On va continuer à filmer des épisodes, on va continuer à... Mais le côté montage, des fois, prend un peu plus de temps. Fait que je pense qu'on va se concentrer. On a tellement d'idées à faire qu'on va peut-être se concentrer là-dessus. Puis, on va en profiter cet été pour, bon, trouver d'autres personnes à passer en entrevue, etc. Donc, c'est possible qu'on n'ait pas d'épisodes qui sortent dans 3 semaines. jusqu'à peut-être septembre ou fin août, on verra. Puis ça se peut que oui, ça, si on est capable d'en fournir, on va le faire aussi. Donc ça sera à voir.
Parce qu'on reste à l'affût de l'actualité aussi.
Ouais.
D'où est-ce qu'on est dans l'année présentement? On pensait qu'il allait y avoir des annonces par rapport à Good Charlotte. On pensait qu'elle allait annoncer quelque chose avec l'été qui s'en vient. On se rappelle qu'en 2016, Uri Bling avait sorti un album en juillet. Fait que je m'attends peut-être à une nouvelle de Good Charlotte bientôt. Il y a Linkin Park qui vient à Montréal au mois d'août aussi.
C'est sûr qu'on va faire un review du show probablement.
Tu sais, ça va être la première fois qu'on va avoir un show avec Emily Armstrong. C'est ça, c'est sûr qu'on va vouloir en parler.
Fait qu'il y a beaucoup de choses, tu sais, mais est-ce qu'on va faire au pire un épisode top-up?
Peut-être une pause, mais ça me surprendrait qu'on sorte absolument rien, tu sais.
Ouais, c'est ça, on verra honnêtement. Ouais. C'est juste pour vous mettre peut-être à l'affût, chers auditeurs qui nous écoutez. J'ai dit chers auditeurs.
OK.
Chers auditeurs qui nous écoutaient depuis presque un an bientôt.
On a parlé de déjà presque septembre. Un an.
Donc merci beaucoup. On continue, c'est sûr. Honnêtement, on a vraiment plein d'idées. Fait que vous allez peut-être vous tanner avant nous. Pour nous suivre, c'est sur Instagram, Pas Fan Podcast. D'ailleurs, c'est ça, c'est notre affaire. Il va falloir peut-être pimper la page un peu plus là, de posts. Je pense qu'on a été un peu plus lazy dans les derniers temps. Il y a eu plein d'anniversaires d'albums qu'il faudrait parler.
Ben c'est ça, on aime, c'est sans faire d'épisode toujours, on aime souligner les anniversaires d'albums
importants. Fait qu'on pourrait, puis une des raisons aussi je pense pourquoi je te disais, je parlais de prendre une pause peut-être, c'est qu'on aimerait vraiment transformer le podcast. On va garder l'aspect vidéo, mais on aimerait vraiment l'emmener en audio seulement aussi pour les gens qui préfèrent l'écouter sur Apple Podcast puis Spotify. Donc on pourrait vraiment avoir le temps, parce qu'on dirait à chaque épisode, je suis tout le temps en train de faire le montage, fait avec ton aide. Fait que j'ai pas le réflexe de faire le reste. Donc, je pense que ça conclut cet épisode-là qui est très long.
Oui, c'est assez.
On va venir vers l'épisode, va être 1h13 comme l'album.
C'est assez. Bye!
Bisous!
Est-ce qu'il y a de la vaisselle qui revole puis tu te tâches comme quand tu manges du spaghetti?
Non, mais plus... Mais tu sais...
Des assiettes qui revolent dans un saloon... Hey, dans ta bouche, quand tu décadences, c'est sûr, j'entends tout le temps déconneur. Quand tu commences, ce mot-là, je vais entendre déconneur parce que c'est ce mot-là qui sort de ta bouche actuellement. Pas décadence.
Déconneur qui est un projet que j'ai eu. Allez, vraiment. T'es pas un vrai fan est une idée originale de Julian et JP.
Pour nous suivre et être au courant de tout, venez visiter la page Instagram, Pas Fan Podcast.